Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, c'était cette semaine la première réunion des États membres du traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
Oui, la première depuis son entrée en vigueur en janvier 2021 et ratifiée à l'époque par 50 États, mais par aucun des 9 États dotés, contrairement au traité de non-prolifération qui autorisait certains États à posséder ces armes nucléaires sans rien dire de leur droit à les employer. Eh bien, le traité d'interdiction, comme son nom l'indique, interdit tout à la fois leur possession, leur mise au point, leur fabrication, leurs essais, leur emploi, un an après son entrée en vigueur donc, et alors qu'il existe encore dans le monde plus de 12 000 armes nucléaires capables de détruire l'humanité et la planète plusieurs fois, ce traité d'interdiction est relu à la fois par ses signataires et par ses détracteurs à l'aune de la guerre que la Russie, puissance nucléaire, mène en Ukraine. Et il continue ce traité à opposer les États qui considèrent que les armes nucléaires sont une condition de la sécurité internationale et ceux qui les pensent condition de l'insécurité internationale. Bonjour Marc Fineau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien diplomate français, vous avez l'expérience des négociations de désarmement. Vous êtes aujourd'hui enseignant au Centre de politique de sécurité de Genève et vice-président de l'association Initiative pour le désarmement nucléaire. Marc Fineau, quel bilan d'abord est-ce qu'on peut faire de ce sommet de 4 jours à Vienne? Est-ce qu'il s'agissait entre autres de convaincre de nouveaux États d'adhérer au traité?
Alors oui, c'est effectivement un début, mais c'est pas le seul. C'est vrai que les États qui ont signé et ratifié ce traité se sont engagés à le promouvoir, c'est-à-dire en faire la promotion auprès des pays non signataires, y compris évidemment les puissances nucléaires, comme vous l'avez rappelé. Donc ça, c'est un engagement et effectivement une grande partie des discours qu'on a entendus à Vienne a consisté à expliquer pourquoi la possession d'armes nucléaires, la stratégie de dissuasion nucléaire était dangereuse pour la sécurité mondiale. Et donc, il y a eu une sorte de consensus pour dénoncer cette stratégie et appeler à la fin de cette épée de Damoclès, comme l'a dit le ministre autrichien des Affaires étrangères.
Et alors quel pays alors cela a convaincu comme discours? Parce que juste avant l'ouverture de Vienne, certains pays ont adhéré au traité.
Oui, en effet. Alors, vous avez évidemment des procédures nationales, hein, de signature, ratification, tout ça peut prendre du temps, et ça a été aussi ralenti pendant la pandémie. Mais c'est clair qu'un événement comme ça, médiatisé, attire l'attention et donc favorise l'accélération de ces procédures internes. La plupart des pays qui ont annoncé leur ratification à l'occasion de cette réunion, évidemment, avaient entamé ces procédures il y a déjà un certain temps. Mais c'est vrai que pour d'autres, certains qui d'ailleurs l'ont annoncé pendant la réunion, qu'ils allaient soit qu'ils allaient signer et qu'ils allaient ratifier, soit qu'ils allaient, mettre en place ces procédures pour devenir État partie au traité.
Alors c'est le cas de toutes les nations d'Amérique centrale, par exemple à l'initiative du Guatemala, mais aussi de Cap-Vert, de Grenade, du Timor oriental. Comment, Marc Fineau, la guerre en Ukraine, la guerre menée par la Russie, puissance nucléaire en Ukraine, a fait revoir de part et d'autre, dans le camp des partisans de l'arme nucléaire ou de la dissuasion nucléaire et de ceux au contraire qui continuent à se battre pour leur interdiction totale, comment cette guerre en Ukraine a fait changer les arguments, a modifié les lignes et peut-être a fait rejoindre certains d'un camp vers l'autre?
Alors, c'est effectivement une bonne question. C'est difficile à ce stade de voir l'impact immédiat, mais on peut dire que les menaces d'emploi de l'arme nucléaire qu'a fait planer
Vladimir
notamment
Poutine
toutes les autorités russes ont finalement renforcé la plupart des pays souhaitant l'abolition de ces armes dans leur conviction, parce que on a eu la preuve, alors cette fois-ci évidente, que ces armes, en fait, loin d'assurer une forme de défense, de dissuasion contre une attaque, au contraire, étaient là pour assurer l'impunité de l'agresseur. Qui évidemment pouvait envahir un pays voisin, le détruire sans crainte de riposte, en l'occurrence de pays occidentaux dotés de l'arme nucléaire ou protégés par le parapluie nucléaire. Et donc, on a eu cette prise de conscience, en fait, dans beaucoup d'opinions. Alors, ça n'est pas encore traduit par des décisions gouvernementales, que ces armes étaient plus dangereuses que jamais, puisqu'elles étaient utilisées pour favoriser la guerre d'agression, et que les pays qui en étaient dotés, comme les pays de l'OTAN, finalement étaient eux-mêmes paralysés, étaient assurés l'autodissuasion, en fait, puisque on l'a bien vu, toutes les lignes rouges que l'OTAN s'est dotée pour éviter une intervention directe dans le conflit à cause des menaces russes. Et donc, ça, on peut dire que l'OTAN s'est privé, à part évidemment les livraisons d'armes conventionnelles, s'est privé des moyens d'une défense à la fois individuelle de l'Ukraine et une défense collective.
Alors, il y a aussi tous ceux qui disent que seule l'existence d'armes nucléaires américaines aurait empêché la Russie de recourir à ces armes contre l'Ukraine et l'Europe, finalement, ce dont on avait eu très peur au début de la guerre. Et puis, on a aussi entendu, Marc Fineau, pendant cette guerre, des spécialistes dire si l'Ukraine avait gardé ses armes nucléaires, celles de l'URSS et qui lui sont restées après l'indépendance, pas pour longtemps en l'occurrence, mais si elle les avait gardées, elle n'aurait pas été agressée par la Russie. Est-ce que d'abord, on peut revenir sur cette histoire? Pourquoi l'Ukraine n'a pas gardé, après la dislocation de l'URSS, les 4500 têtes, donc c'est un arsenal énorme qu'elle possédait, basé sur son sol à l'époque.
D'abord, c'est un argument fallacieux de dire que l'Ukraine possédait ses armes. L'Ukraine a hérité de ses armes qui étaient stationnées sur son territoire, mais elle ne les a jamais contrôlées. Mmh. C'était les Russes qui gardaient les codes de ces armes et donc qui ont toujours conservé le contrôle de ces armes. Et l'Ukraine était bien contente de s'en débarrasser, puisque évidemment ça lui aurait coûté très cher de maintenir cet arsenal, mais déjà à supposer que les Russes lui transfèrent les codes. Et ensuite, parce que donc l'Ukraine est peut-être un peu naïvement et encouragée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, a accepté en échange de ce transfert des garanties de sécurité de la Russie. Et c'est évidemment cette guerre, d'ailleurs, qui a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, montre bien que des garanties déclaratoires, même solennelles, même entérinées par le Conseil de sécurité, que ces garanties ne suffisent pas à assurer que ces armes ne seront jamais utilisées. La seule garantie absolue, c'est le désarmement.
Et on dispose de documents de l'époque qui montrent que seule une toute petite minorité de députés ukrainiens à l'indépendance voulaient garder cet arsenal. Et dans la déclaration d'indépendance, il n'y a aucun lien qui est fait entre l'arsenal nucléaire et la sécurité de l'Ukraine. Tchernobyl, d'ailleurs, est forcément dans toutes les têtes encore à ce moment-là. Mais si l'Ukraine avait gardé ses armes, est-ce qu'elle aurait continué à recevoir de l'aide internationale, par ailleurs?
Alors, bon, c'est difficile d'imaginer ce qui serait passé. En tout cas, la pression à la fois de la Russie et des Occidentaux était très forte pour que l'Ukraine, comme le Kazakhstan et la Biélorussie, qui étaient dans la même situation, transfèrent leurs armes et se réintègrent dans la communauté du traité de non-prolifération. Mais aussi, je vous dirais, cet argument aujourd'hui qu'on ressort pour dire « Ah, si l'Ukraine avait gardé ses armes, elle n'aurait pas été attaquée », c'est l'argument le plus proliférateur qu'on peut imaginer. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi dénier à la Corée du Nord le droit d'avoir des armes nucléaires? Pourquoi en priver l'Iran si ces armes sont véritablement le seul moyen d'assurer la sécurité et d'empêcher une invasion? À ce moment-là, tout le monde devrait avoir le droit de les posséder.
Et de toute façon, l'Ukraine n'avait pas de source de pression gazeuse pour entretenir cet arsenal, ou n'avait pas non plus la capacité d'entretenir l'arsenal. En 10 ans, c'est Léonid Kouchma, le président ukrainien de l'époque, qui disait qu'en 10 ans, ça aurait coûté 3 fois la politique de santé et d'éducation, 200 milliards de dollars.
Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est-il vain? L'invité des enjeux internationaux est l'ancien diplomate, vice-président de l'association Initiative pour le désarmement nucléaire, Marc Fineau.
Marc Fesneau, près d'un an et demi après son entrée en vigueur, qu'est-ce que ce traité d'interdiction des armes nucléaires a d'ores et déjà changé ou déclenché? Est-ce qu'on peut quantifier le désarmement opéré par les pays signataires ou on en est encore à l'élaboration d'un agenda de ce désarmement?
Alors, a priori, tous les États qui ont signé et ratifié ce traité, vous l'avez rappelé, il y en a aujourd'hui 65, et puis une trentaine d'autres qui l'ont signé mais pas encore ratifié. Et c'est un mouvement qui continue, hein, puisqu'on voit de nouvelles annonces. Bon, aucun de ces pays, évidemment, ne possède d'armes nucléaires. Donc on a accusé évidemment les soutiens, les partisans de ce traité de naïveté et de dire que c'est un traité qui ne sert à rien.
Mais certains en ont sur leur sol, par exemple des missiles ou des armes nucléaires américaines comme peuvent en avoir les Pays-Bas, la Belgique, oui. L'Allemagne en Europe.
Justement, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas signé et pour l'instant ils ne se... s'apprêtent pas à signer ou à ratifier le traité. Ils ont, en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est un des principaux événements de cette réunion, c'est que 4 des 5 pays de l'OTAN sur lesquels sont stationnées des armes nucléaires américaines ont participé à cette réunion en tant qu'observateurs. Et ils ont bien précisé qu'ils ne pouvaient pas aujourd'hui signer le traité parce qu'ils sont membres de l'OTAN et que l'OTAN reste une alliance nucléaire. Donc il y a une incompatibilité. Mais le geste, le message qu'ils ont envoyé est quand même très intéressant, puisque ça montre bien qu'ils sont partisans de l'objectif du désarmement nucléaire, général, complet, sous vérification internationale, et que leurs propres opinions, et c'est là où il y a un rôle important joué par les opinions internes, la société civile, les parlements, eux sont majoritairement favorables à ce que ces pays se désengage de la politique nucléaire de l'OTAN tout en restant dans l'alliance. Alors il y a des mécanismes qui sont possibles, mais en tout cas le fait que ces 4 pays-là aient participé et de même que d'autres pays qui sont couverts par un parapluie nucléaire américain comme l'Australie est un signal fort. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un clivage absolu entre les partisans et les opposants à la dissuasion nucléaire.
En deux mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, Marc Fesneau, en attendant, pendant que certains préparent un désarmement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'arsenal des 9 puissances nucléaires, dont 5 seulement sont juridiquement considérées comme telles? Ils n'arrêtent pas d'augmenter cet arsenal?
Oui, bien sûr, et c'est pas nouveau. Hein. Et c'était une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ce traité a été négocié. Parce que justement, les promesses de négociation de désarmement qui remontent à plus de 50 ans dans le traité de non-prolifération n'ont pas été tenues et que les arsenaux des puissances nucléaires n'ont peut-être pas augmenté quantitativement. La tendance a été plutôt à la baisse depuis la guerre froide. On est passé de 70 000 à 12 000, mais augmenté qualitativement avec des modernisations, un recours à des armes plus utilisables et donc c'est cette évolution qui se traduit par des dépenses colossales de plus de 100 milliards par an qui ont amené la majorité des pays du monde à négocier ce traité.
Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Merci les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux.
France Culture. L'esprit d'ouverture.